Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Shakespeare est sans doute le dramaturge le plus célèbre de l'histoire. Ses pièces sont jouées dans le monde entier et ont été traduites dans pratiquement toutes les langues. Pourtant, malgré cette notoriété, rare pour un auteur dramatique, la vie privée de Shakespeare et plus particulièrement ses relations aux femmes restent un mystère. Grâce aux rares documents personnels qui ont été retrouvés, on sait qu'il a été marié à une certaine Anne Hathaway, mais c'est à peu près tout. Cependant, au vu des innombrables personnages féminins dont il a brossé le portrait dans ses pièces, on serait tenté de croire qu'il n'a fréquenté que d'horribles mégères. Shakespeare a-t-il été malheureux en ménage? Était-il simplement misogyne? Un épais mystère pèse sur cet être exceptionnel et faute de sources historiques, on ne peut s'en tenir qu'à ses pièces. Que peuvent-elles nous révéler au sujet de l'homme dans sa relation aux femmes? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en deux parties. En cette matinée du 10 juillet 1593, alors que la peste a réapparu depuis un an, les rues de Londres, aux maisons hautes et étroites, aux toits rouges et pointus, sont bourdonnantes de vie comme si de rien n'était. Les Londoniens sont tellement habitués aux épidémies que c'est à peine si celle-ci les émeut. C'est ainsi. À chaque décennie, son épidémie, il faut bien faire avec. Dans une louable tentative pour enrayer le mal, les autorités ont décidé de fermer les théâtres. Mais à quoi bon, puisqu'en ville, on se rassemble autant qu'avant, en se souciant de la maladie comme d'une guigne. On a vaguement isolé les malades, mais de toute façon, cela ne servira à rien. Chacun sait que l'épidémie est un châtiment céleste. Si la peste frappe, c'est que le péché infeste la société des hommes. Tandis que les Londoniens s'interrogent sur les péchés qu'ils ont bien pu commettre pour déclencher la peste, un jeune dramaturge s'interroge, lui, sur les tortures que l'amour inflige aux hommes. À chacun ses préoccupations. Ce jeune poète, c'est William Shakespeare. Il a 29 ans et a déjà acquis une solide notoriété comme acteur et auteur de pièces à succès. Mais la fermeture des théâtres a mis sa carrière entre parenthèses. Il en a donc profité pour composer deux longs poèmes dédiés à l'amour, Vénus et Adonis et Le viol de Lucrèce. Reste à les faire publier. La poésie est son jardin secret. Loin de la scène, à l'abri des regards, il peut confier au papier ses tourments les plus douloureux. Non pas que la profession de dramaturge et comédien lui déplaise, loin de là. Même si certains, à l'époque, regardent encore le théâtre d'un mauvais œil. Quelque temps auparavant, un conseiller royal n'a-t-il pas affirmé
« Jouer le théâtre en temps de peste, c'est accroître la peste. Jouer hors du temps de peste, c'est attirer la peste en offensant Dieu par de tels spectacles. »
Ah, la poésie, voilà un art qui dépasse tout et pour lequel Shakespeare serait peut-être capable de donner tout le théâtre au monde. Quant aux oiseaux de malheur qui prophétisent si sottement sur le théâtre porteur de peste, eh bien si les bonnes gens se montrent certes craintifs en temps d'épidémie, par bonheur, en temps normal, ils se moquent bien des commentaires moralisateurs et les théâtres londoniens ne désemplissent pas. Et puis, les théâtres ne sont pas seuls à souffrir. Tout le monde pâtit de la peste. Taverne, commerce, tout est tout de même plus ou moins à l'arrêt. La reine Élisabeth Ière en personne n'a-t-elle pas décidé de repousser la cérémonie d'investiture du nouveau maire de Londres et de redistribuer l'argent ainsi économisé aux familles frappées par le fléau? Tandis que le jeune William disserte sur les peines d'amour, en ville on prend les mesures habituelles pour se protéger des émanations de la peste. On jette des pelures d'oignons, du vinaigre, des épices dans les rues pour en chasser la pestilence. Malgré la chaleur de l'été, on allume des feux pour assainir l'air. Des officiers municipaux marquent d'une croix les portes des foyers infectés, tandis que des soldats procèdent au massacre des chiens errants qui pullulent dans la capitale. Les chiens, comme les rats, contribuent dangereusement à la transmission de la maladie. Si vous possédez un chien, pour savoir s'il a été infecté par la peste, il vous suffit de respecter la marche à suivre indiquée par les médecins. Sur toute plaie suspecte, il faut appliquer le croupion d'un coq vivant. Si le coq gonfle, c'est que le chien a contracté la peste. Les Londoniens propriétaires de chiens sont un petit peu dubitatifs quant à la pertinence de cette technique, nous dit la chronique. Indifférent aux chiens, aux oignons, aux rats et à la fermeture des théâtres, William s'échine à relier entre elles les pages du poème qu'il s'apprête à rendre public. Il tient un succès, c'est certain. Est-il au monde une thématique plus prisée que l'amour, surtout en ces années charnières entre le Moyen-Âge finissant et la Renaissance qui s'annonce? Dans son poème, Shakespeare décrit avec un luxe d'allusions croustillantes comment Vénus, brûlante déesse de l'amour, tente de séduire le bel Adonis. Vénus est amoureuse d'Adonis, jeune homme d'une éblouissante beauté. Ils se connaissent de longue date. Elle l'accompagne souvent à la chasse. Un jour, elle se décide à lui faire des avances de façon on ne peut plus explicite. « Mon amour, puisque je t'ai enfermé dans ce cercle d'ivoire, je serai le parquet, tu seras mondain. Nourris-toi où tu voudras, sur les coteaux ou dans la vallée. Rassasie-toi sur mes lèvres. Et si les montagnes sont desséchées, erre plus bas, tu y trouveras de douces fontaines. Dans ces limites, tu as de quoi te satisfaire. Une pelouse et une belle plaine délicieuse, des coteaux arrondis et des taillis épais et sombres pour te mettre à l'abri de la tempête et de la pluie. Sois donc mondain, puisque je suis un parc si charmant. Aucun limier ne t'y poursuivra, quand même tu en entendrais aboyer mille. » Mais Adonis reste de marbre, insensible aux allusions torrides de la déesse. Shakespeare ne s'y est pas trompé. Bien que publié en temps de peste, son poème va avoir un succès retentissant. L'Angleterre de l'époque apprécie ce genre de mélange entre innocence et dépravation. Le poème sera réédité de très nombreuses fois et Shakespeare lui-même en est très fier, puisqu'en première page de l'œuvre, il prend la peine d'indiquer
« Le premier fils de ma création ».
Le poème « Vénus et Adonis » est si riche en allusions sexuelles qu'il incite à s'interroger sur la vie amoureuse du dramaturge. D'autant plus que si Vénus et Adonis décrit la passion vorace d'une femme pour un homme rivé à sa chasteté, le poème suivant, publié par Shakespeare juste après, est intitulé « Le viol de Lucrèce » et envisage la thématique diamétralement opposée. Il y est question d'une femme innocente, violée par un homme lubrique. Entre ces deux extrêmes, homme chaste ou homme lubrique, où se situe exactement William Shakespeare? A-t-il été un grand amoureux? Un mari chaste et fidèle? Un fougueux amant? Shakespeare, le prince des poètes, a fait couler beaucoup d'encre, autant pour le contenu de ses œuvres que pour l'histoire de sa vie privée. Ses pièces ont été abondamment publiées, traduites, commentées, mais pour sa vie, pour une raison qu'on ignore, se résume à un grand point d'interrogation. Au point que toutes les publications qui se rapportent à elle ne sont qu'une succession d'allégations, de questions ou de commentaires. Jamais homme ne fut plus entouré de mystères. Parler de lui, parler de ses amours, est un exercice périlleux qui doit forcément passer, faute de mieux, par la relecture de ses œuvres à la recherche d'indices qui pourraient éclairer sur tel ou tel détail de sa vie privée. Une chose est sûre, si l'on fait le bilan des personnages féminins qu'il a imaginés, Ce génial dramaturge a dû avoir un sérieux problème avec les femmes. Dans les personnages féminins hauts en couleur que l'on trouve dans son œuvre, cohabitent en effet le meilleur et le pire, et il faut en convenir, surtout le pire. Folles hystériques, sorcières, prostituées, cannibales, mégères, simplettes, délatrices, criminelles, incestueuses, vicieuses. Des femmes de Shakespeare apparaissent dans ses pièces comme
« piquées par les seins de tous les vices ».
Mais revenons aux sources. De la vie privée de Shakespeare, donc, on ne sait pas grand-chose. Il est cependant établi qu'il est baptisé le 26 avril 1564 dans la petite ville de Stratford-sur-Avon, située à 150 km de Londres. 18 ans plus tard, un document daté du 27 novembre 1582 nous indique qu'une licence lui a été accordée par l'évêque de Worcester pour épouser une certaine Anne Hathaway. William a alors 18 ans, elle en a 26. Fille d'un agriculteur aisé de la région, elle reçoit une jolie dot. Selon l'usage, elle vient vivre dans la maison familiale de Shakespeare. Le mariage semble avoir été célébré avec une certaine hâte, puisque 6 mois plus tard, sa femme accouche d'une fille baptisée Suzanne. Puis c'est le silence. Shakespeare semble disparaître du cours de l'histoire. On ne retrouve sa trace que 10 ans plus tard, en 1592, à Londres, sans qu'on sache vraiment comment il y est venu. Pourquoi a-t-il laissé femme et enfant à Stratford ? On ne sait rien de ses motivations réelles. S'il y a un mystère Shakespeare, c'est durant ces années de silence qu'il est apparu, nourrissant les hypothèses les plus fantaisistes. La plus solide d'entre elles ? Eh bien, William aurait fui le foyer conjugal pour échapper à l'emprise d'une épouse insupportable. Certains historiens ont évoqué à ce sujet le mariage à la hâte de ce jeune homme de 18 ans avec une femme de 8 ans son aînée, le tout alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Cela n'est d'ailleurs pas forcément significatif. Ne se marier qu'avec la découverte de la grossesse est à l'époque une pratique des plus courantes. Pourquoi ce départ apparemment soudain vers la capitale anglaise ? Est-ce un choix ? Est-ce une obligation ? On l'ignore tout à fait. Quoi qu'il en soit, Shakespeare, comme d'ailleurs son frère, va d'abord suivre une carrière d'acteur. Il est probable que seule la ville de Londres pouvait alors lui en offrir la possibilité. Et si sa femme ne l'a pas suivi ? C'est sans doute pour une raison simple. D'abord parce qu'elle appartient à une famille solidement implantée à Stratford, ensuite parce qu'après Suzanne, elle a donné naissance à 2 jumeaux, Ahmet et Judith. Elle a suffisamment à faire avec eux pour ne pas suivre son acteur de mari dans le tumulte de Londres. Si Shakespeare ne remet pour ainsi dire pas les pieds dans sa ville natale, ou au mieux une fois par an, il n'en oublie pas pour autant sa famille. Son testament montre qu'il prend en compte consciencieusement l'intérêt de ses enfants et petits-enfants. C'est d'ailleurs dans ce testament que se trouve le dernier argument apportant de l'eau au moulin des partisans d'une version Shakespeare marié avec une mégère. Dans ce testament, en effet, le dramaturge indique céder à sa femme le 2e meilleur de ses lits. Comment ? Alors qu'il est à la fin de sa vie, aussi riche que célèbre, il n'aurait en mourant laissé qu'un malheureux lit à sa femme ? Là encore, il suffit de jeter un œil sur les règles en usage à l'époque. Selon le droit anglais d'alors, l'épouse se trouvait automatiquement héritière du tiers de la succession du mari. Nul besoin donc d'en faire mention dans un testament. D'autre part, la coutume voulait que dans un foyer, on donne le premier et le meilleur lit aux invités. Le 2e lit était tout simplement le lit conjugal. Dès lors, il apparaît logique que Shakespeare ait pris soin de préciser que le meilleur 2e de ses lits devait revenir à sa femme. Lorsqu'il prend sa retraite en 1613, Shakespeare quitte Londres et retourne à Stratford auprès d'Anne Hathaway. Après des années d'absence, serait-il revenu auprès d'une femme qu'il n'aimait pas et dont il aurait eu à redouter d'avoir à supporter pour le restant de ses vieux jours le caractère odieux ? Mais voilà qui, hélas, ne fait qu'épaissir le mystère. Si Anne Hathaway n'était qu'une mégère, D'où sortent alors toutes ces viragos présentes dans les quelques 37 drames et comédies de Shakespeare? Une virago vient du mot latin « vir » qui désigne l'homme. Donc une virago, c'est une femme qui cherche à ressembler à un homme. Car enfin, les portraits qu'il dresse au fil de ses pièces, saisissant de vérité, laissent entendre qu'il a bien pris modèle quelque part. Et puis, l'œuvre de Shakespeare, dans son aspect politique, n'est pas œuvre de fantaisie. C'est une succession de drames historiques fondés sur l'histoire réelle. Que s'est-il donc passé dans la vie ou dans l'esprit du dramaturge pour charger ainsi la nature féminine? Était-il tout simplement misogyne, aigri? Il faut en convenir, n'ayant à notre disposition aucun document à ce sujet sur sa vie, il faut se résoudre à emprunter le chemin que tous ont pris avant nous, revenir à son œuvre, tâcher de lire entre les lignes pour chercher à répondre à cette question. Qu'est-ce que les femmes ont donc fait à Shakespeare pour mériter ça? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à Shakespeare et les femmes.